Et nous allons débuter avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Il faudra attendre le 1er décembre prochain pour rediscuter du confinement et de son éventuel allègement. Les commerces non essentiels restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Jean Castex a expliqué hier que le pic de la deuxième vague épidémique de Covid-19 pourrait être atteint la semaine prochaine si l'horizon s'éclaircit dans les prochaines semaines. Pas question pour autant d'organiser de grandes fêtes en fin d'année.
Des fêtes plombées par la crise sanitaire et la crise économique. Près d'un Français sur sept a recours à l'aide alimentaire cette année. Alerte lancée par le Secours catholique.
Cela veut dire 2 à 9 euros par jour pour vivre pour la moitié des ménages accueillis par l'association. Conscient des difficultés que rencontrent les Français, le geste a fait hier soir un geste en faveur des chômeurs en fin de droit.
Et puis à cause de la crise sanitaire et de la menace terroriste, cérémonie restreinte en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Dialogue singulier entre le père d'une victime et le père d'un terroriste à découvrir dans notre portrait comme personne à 7h25.
À la une encore, Bridgestone a fermé la porte à Béthune, 863 emplois supprimés dans le Pas-de-Calais. Et puis aux États-Unis, Donald Trump, qui refuse la défaite, est contredit par ses propres agences sur la probité de la présidentielle. Non, il n'y a pas eu de fraude dans la dernière élection.
Et puis dans une dizaine de minutes, nous retrouverons la radiographie du coronavirus avec notre camarade Nicolas Martin.
Avec 418 décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures, soit près de 43 000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, l'ennemi, ce n'est pas l'État ni le gouvernement, c'est le virus, a déclaré hier soir Jean Castex, se pliant à la clause de revoyure du reconfinement annoncée il y a deux semaines par Emmanuel Macron. Il a indiqué en conférence de presse que les mesures en vigueur sont prolongées de 15 jours au moins, au grand dam des petits commerçants qui espéraient rouvrir leurs boutiques. Jean Castex a dit comprendre leur souffrance, mais la priorité du gouvernement reste d'infléchir la courbe des contaminations d'ici la fin de l'année.
Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël, afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude. On pourra bien sûr se retrouver avec les siens, mais il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre.
Jean Castex, hier soir, a également souligné qu'il ressentait les difficultés du pays, des difficultés qu'a chiffré le Secours catholique. La France va franchir le cap des 10 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. C'est près d'un Français sur sept qui voit ainsi sa situation dégradée par la crise sanitaire et économique. Sur les ménages accueillis par l'association cette année, avec la moitié d'entre eux vivent avec 2 à 9 euros pour vivre par jour et par personne, une fois toutes les factures payées. Enfin, quand c'est possible. Écoutez Jean Mercard, directeur du plaidoyer France du Secours catholique. Il plaide pour un revenu minimum garanti et il demande au pouvoir public d'agir enfin.
Beaucoup ont été choqués de voir que des familles, des étudiants, des travailleurs n'avaient pas les ressources nécessaires pour pouvoir se nourrir. Donc on voit exploser en cette fin d'année les chiffres des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Je pense qu'on reste en France dans une conception assez largement héritée de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'idée que la pauvreté touche essentiellement les personnes âgées. Et donc on a un système de protection sociale qui protège davantage les personnes âgées. Mais par contre, les 18-25 ans, eux, n'ont aucune protection. Alors quand tout s'arrête, l'intégralité de vos revenus dépend d'un petit boulot, de l'indemnité de stage, eh bien, vous vous retrouvez à la rue.
Jean Mercard, directeur du plaidoyer France du Secours catholique. Pour accompagner justement les étudiants en difficulté, Jean Castex a annoncé la création de 1600 emplois dans les universités, soit deux référents étudiants dans chacune des 800 cités U. Le Premier ministre, qui se dit donc conscient des difficultés à trouver ou retrouver un emploi en cette période de crise, fait également un geste en faveur des chômeurs en fin de droit. Alors, pas question de revenir sur la réforme de l'assurance chômage qui durcit drastiquement les conditions d'accès aux droits pour les demandeurs d'emploi, mais l'assurance chômage sera prolongée pour la durée du confinement, Catherine Pétillon.
Les chômeurs qui arrivent en fin de droit ce mois-ci verront leur droit à l'assurance chômage reconduit le temps du confinement. Une mesure exceptionnelle sur le même modèle que ce qui avait été fait au printemps pour éviter le risque de bascule dans la précarité, a expliqué le Premier ministre. Une prolongation de 2 mois concernerait environ 220 000 personnes, précise le ministère du Travail. Elisabeth Borne a également indiqué qu'un délai supplémentaire pour s'inscrire à Pôle emploi serait accordé aux demandeurs d'emploi, le temps de rassembler les pièces nécessaires. Voilà pour les annonces d'hier. Le gouvernement travaille également à des mesures d'urgence pour les saisonniers et toutes les personnes qui enchaînent des contrats courts dans les domaines mis à l'arrêt par la crise. L'exécutif propose ainsi des mesures conjoncturelles pour les plus fragiles, mais tient bon sur sa réforme de l'assurance chômage, un texte qui durcit fortement les conditions d'accès et limite les droits. Son application a été reportée au 1er janvier, puis finalement au 1er avril, mais pas question de l'abandonner, comme le réclament tous les syndicats. La ministre du Travail, qui a rencontré hier les partenaires sociaux sur le sujet, propose néanmoins des aménagements, comme le retour à 4 mois de travail pour recharger ses droits ou l'instauration d'un plancher en dessous duquel le salaire journalier de référence ne pourrait pas descendre. Reconnaissant que ces options balancent plutôt en faveur des organisations patronales, le ministère a indiqué hier qu'il ferait de nouvelles propositions avant la prochaine réunion prévue début décembre.
Autre annonce à retenir de la conférence de presse de Jean Castex hier soir, l'extension d'une mesure sur les loyers épine dans le pied des commerçants. Il y a 15 jours, Bruno Le Maire annonçait un crédit d'impôt de 30% pour les bailleurs qui renonceraient à des loyers au profit des commerces fermés. Eh bien, ce crédit d'impôt est finalement porté à 50% et la cible est également étendue. Les bailleurs qui ont pour clients des grands magasins, des galeries commerciales pourront également en bénéficier. La mesure estimée à 1 milliard d'euros doit encore être votée dans le cadre du budget 2021. Pas de quoi calmer les inquiétudes des petits commerçants qui craignent de ne jamais rattraper leur chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. L'entêtement technocratique de Jean Castex à maintenir fermés les petits commerces est suicidaire, déclare Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône et vice-président du parti Les Républicains. Les clients vont continuer de s'agglutiner en grande surface et les faillites des commerces de proximité seront nombreuses, prédit-il. À l'instar de la France, la Belgique a elle aussi dressé une liste des commerces essentiels, autorisés à rester ouvert pour tout ou partie. Pas de barbier ni de coiffeur, mais des libraires et des fleuristes. Une liste qui ne fait pas l'unanimité en Belgique, Pierre Benazé.
Contrairement au premier confinement, les magasins de bricolage ont pu rester ouverts en Belgique, comme les réparateurs de vélos, les merceries ou les opticiens. Et cette liste a fait l'objet d'âpres négociations entre le gouvernement fédéral et ceux de la Wallonie, de Flandre ou de Bruxelles. Le principe était à la fois de maintenir les commerces utiles et ceux qui préservent le loisir et le moral des Belges. Mais il y a eu des revirements devant la levée de boucliers de certains secteurs, et en fin de compte, les fleuristes, les papetiers et les libraires sont restés ouverts. Il a fallu pour cela un arbitrage de dernière minute du Premier ministre fédéral. Les librairies regrettaient la concurrence d'Internet, l'Union royale des fleuristes de Belgique dénonçait comme injuste l'autorisation des pépinières et magasins de jardinage. À l'inverse, le puissant syndicat FGTB s'insurge contre le maintien du secteur des titres-services, car les aides ménagères visitent nécessairement des dizaines de foyers. Ces décisions ne sont pas critiquées dans la sphère politique, mais par les Belges qui ne s'y retrouvent plus, et par les associations de commerçants qui soulignent que pour beaucoup, l'année est perdue. L'approche de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, jour des cadeaux pour les petits Belges, renforce aussi les critiques face à la fermeture des magasins de jouets.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, c'est fini pour l'usine Bridgestone de Béthune, le géant japonais du pneumatique quittera bel et bien le Pas-de-Calais.
Dans le courant de l'année prochaine, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre la direction d'explorer des scénarios alternatifs. 863 emplois sont donc supprimés à Annabelle Grelier.
Comme Goodyear et Continental avant lui, Bridgestone invoque, pour justifier la fermeture de son site de Béthune, la concurrence croissante des marques asiatiques à bas coût et notamment chinoises. Il estime que leur part de marché est passée de 6 à 25% depuis 2000, alors que dans le même temps, le marché automobile européen a chuté de près de 40%, frappé par les conséquences de la pandémie de Covid-19. La direction de Bridgestone assure que la cessation totale d'activité est donc la seule option qui permette de répondre à la surcapacité de production structurelle du groupe afin de sauvegarder la compétitivité de ses opérations en Europe. Des arguments économiques quasi irréfutables contre lesquels l'État ne peut pas grand-chose. Le plan proposé par le gouvernement d'investir 100 millions d'euros, dont une partie à sa charge dans de nouvelles machines, pour produire des pneus plus haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée, n'avait quasiment aucune chance d'aboutir. C'était un projet industriel irréaliste, l'a même jugé le groupe japonais, et qui de toute façon arrive bien trop tard. Face aux délocalisations, les marges de manœuvres du gouvernement ont toujours été très faibles. Mais il se devait, là encore, de montrer du volontarisme dans une période où il parle de réindustrialiser la France et de grands plans de relance. La BPI et Business France sont chargés de trouver des repreneurs pour le site. 4 projets auraient été déposés et la ministre déléguée à l'industrie d'évoquer parmi les pistes un écosystème en train de se mettre en place dans la région avec un site de batteries électriques qui va ouvrir et qui va recruter 2400 personnes, selon Bercy.
Il y a 5 ans, c'était un vendredi, là aussi, 3 commandos de terroristes attaquaient le Bataclan, le Stade de France et des terrasses du 10e arrondissement. Le plus lourd bilan pour un attentat que la France ait jamais connu. 130 morts et des survivants blessés dans leur chair et dans l'esprit. 5 ans après, les victimes se préparent désormais à la perspective du procès des attaques. Il nous reste les mots. C'est le titre d'un livre coécrit par Georges Saline, père d'une des victimes du Bataclan, et par Azdine Amimour, père de l'un des 3 terroristes qui ont tué dans la salle de spectacle. Un double portrait que nous vous proposons d'entendre à 7h25 dans notre reportage du vendredi comme personne. 7h10 sur France Culture. Sa victoire vient d'être officialisée dans l'Arizona et c'est une première pour un démocrate depuis 1996. Joe Biden peut désormais compter sur 290 grands électeurs quand il lui en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle et entrer à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Mais 10 jours après le scrutin, Donald Trump refuse toujours de concéder la défaite, criant à la fraude. Mais il a été contredit hier soir par les autorités électorales. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Le communiqué d'une page a été rédigé par une dizaine d'autorités électorales, dont l'agence de cybersécurité, qui dépend directement du département de la sécurité intérieure. Ces agences sont catégoriques. Il n'y a aucune preuve que des bulletins de vote ont été perdus ou modifiés, ou que des systèmes de vote ont été piratés. Ces responsables vont même plus loin. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Le Homeland Security vient donc démentir le président Trump et ses équipes qui ne cessent de dénoncer une fraude massive et ont déposé des recours dans la plupart des États clés où le candidat républicain a été battu. À chaque fois, ils sont rejetés par les tribunaux locaux. La date limite pour demander un recomptage des voix a été fixée au 8 décembre car 6 jours plus tard, tout doit être réglé. Le 14 décembre, les grands électeurs voteront formellement pour désigner Joe Biden comme étant le futur 46e président des États-Unis.
Et toujours aux États-Unis, face à la deuxième vague épidémique de Covid-19, New York oblige ses bars et ses restaurants à fermer à 22h dès ce soir. Inquiétude également en Italie, dans la région de Naples, où nous serons dans le journal de 7h30. Les hôpitaux sont débordés, vous l'entendrez. Quelques mots du temps de ce vendredi 13 novembre, couvert et humide dans la moitié nord du pays, nuageux aussi au sud, mais les éclaircies seront plus marquées. Au meilleur de la journée, il fera entre 7 et 14 degrés au nord, compté de 16 à 22 au sud, Guillaume Herner.
Donc, quelques instants, Catherine Dutu, Nicolas Martin pour sa radiographie du coronavirus. Il est 7h12.